RFI.
Alors, on dit quoi ?
Hello, c'est Diarra. C'est parti pour 50 minutes de notre émission. Alors, on dit quoi ? Une émission pour une fois qui nous est exclusivement réservée, nous, les jeunes. Notre avis compte. Alors, c'est simple. Je vous donne le micro. On le partage. Il est à nous. Toute la semaine, j'attends ce moment avec impatience parce que c'est notre moment. Et ici, il n'y a pas de tabou.
Pour la société dans laquelle je suis actuellement au Niger, les jeunes se marient pas forcément pour l'amour ou pas forcément pour le fait que c'est le moment.
Et pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, eh bien je suis Diarra Ndiaye. Ma mission, vous donner la parole chaque samedi sur RFI. Je suis journaliste et je me pose les mêmes questions que vous sur l'avenir, la vie de famille, les angoisses, la carrière, la santé, les galères, les kiffs du moment. Tout ce qui, de façon générale, a une incidence sur notre quotidien et sur notre continent africain. Et justement, cette semaine, on a un gros programme. On va parler de plein de choses. J'ai reçu des appels de personnes qui voulaient parler des traditions. On entendra le gros coup de gueule d'Adia Idriss Aba. On a également promené nos micros dans les rues de N'Djamena, Niamey, Dakar et Paris pour vous faire parler de ce qui parfois effraie les jeunes, le mariage. Ah oui, j'adore la musique, alors on va aussi s'enjailler sur des morceaux que vous avez choisi d'écouter cette semaine, comme celui d'Isbil, rappeur malien engagé.
Cela de la vie, c'est pour apporter à ma façon ma contribution à la lutte contre le terrorisme et contre la radicalisation qui sont des problèmes qui touchent énormément mon pays.
Voilà, donc on a beaucoup de choses à se raconter. J'ai envie de vous entendre, j'ai envie de discuter avec vous, j'ai envie que cette émission soit un arbre à palabres incontournable pour nous préparer à prendre la relève. Alors contactez-nous pour passer dans Alors on dit quoi, WhatsApp ou Facebook, on a tout pour rester en contact, j'y tiens beaucoup. Faut pas hésiter, appelez-nous et n'hésitez pas à nous laisser un message sur notre page Facebook Alors on dit quoi. Atianudem, c'est parti.
Coucou Diarra, j'espère que tu vas bien. Je te fais à l'instant, donc je t'envoie les audios que j'ai fait donc pour moi me présenter, notamment avec les trois grandes questions que tu as demandées.
Bonjour, je m'appelle Sandrine Agartiga, tech entrepreneur et blogueuse franco-tchadienne. Je suis notamment à l'initiative du média 100% participatif qui s'appelle Entreprendre l'Afrique et je me définis comme une afro-optimiste qui a la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre. Si j'avais un message à passer à la jeunesse africaine, je dirais tout d'abord que nous devons vraiment être vus par nous-mêmes comme une opportunité et non comme une bombe à retardement comme certains osent le penser. C'est à nous et nous seuls de véritablement prendre notre destin en main et de bâtir l'Afrique dont nous rêvons. Et pour cela, je dirais que rien ne se fera sans un minimum d'amour propre d'abord et surtout de travail. Nous devons nous autoriser à rêver et à croire que c'est possible si on y met vraiment du nôtre. Et si enfin je dois insister sur un point, c'est sur le fait que nous ne devons pas avoir peur d'échouer. Puisque l'échec, c'est vraiment un chemin quasi obligatoire qui mène au succès. Si j'avais un message à passer aux seniors, je dirais d'abord, avant tout, que les seniors, selon l'éducation africaine que moi j'ai reçue, ce sont vraiment nos aînés et nous leur devons un profond respect. Il est vrai que quand on parle d'Afrique, on met très souvent en avant sa jeune population, car c'est un continent très jeune, et cette jeunesse est sa force, mais les seniors aussi le sont. Alors ils devraient davantage être associés à toute décision et tout processus de développement. Ils devraient se sentir eux aussi légitimes à aider les jeunes Africains que nous sommes pour le progrès efficace du continent. Pour moi, la vision d'une Afrique qui gagne, c'est d'abord une Afrique où l'on pourrait de plus en plus faire confiance aux jeunes et surtout aux jeunes femmes. Une Afrique où l'éducation et la formation professionnelle seraient au cœur de toute préoccupation, car il va sans dire que l'éducation est le pilier du développement d'un pays et de surcroît d'un continent. Sans éducation stable, nul besoin de penser à un avenir stable. Enfin, c'est une Afrique où les valeurs telles que le travail, l'amour, le respect et l'humilité seraient mis en avant, car en ce qui me concerne, ce sont avec ces valeurs-là que j'ai été élevée, que je continue à grandir.
Alors, on dit quoi ?
Diarra Ndiaye. Une jeune qui rêve, c'est une jeune qui se bat. On vient de l'entendre avec Sandrine. Et n'hésitez pas, chaque samedi, envoyez-moi vos messages sur le compte WhatsApp de Alors on dit quoi. Présentez-vous avec votre nom et prénom. Définissez-vous en trois mots-clés. Adressez ensuite votre message à la jeunesse africaine, puis aux aînés. Et expliquez-moi votre Afrique qui gagne.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742. Alors on dit quoi ?
L'initiative de la semaine.
J'ai maintenant une pépite d'histoire pour vous. Ça se passe à Mogadiscio, en Somalie. Une initiative que j'espère inspirante, celle d'un jeune homme à Aboukar, Mohamed Ahmed, qui n'a pas hésité à combiner créativité et audace. Alors on sait que le chômage mine notre continent en Afrique. Selon la Banque africaine de développement, les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains. Et on voit bien que même les gouvernements peinent à endiguer ce fléau. Aboukar fait lui aussi partie de ces jeunes à la recherche d'un emploi. Il est instruit, diplômé, motivé. Il n'empêche que, comme beaucoup d'entre vous, à la sortie de l'université, il n'a pas trouvé de job. Eh bien, figurez-vous que ce ne sont pas ses diplômes qui lui ont permis de trouver un emploi en seulement 48 heures. Je sais, dit comme ça, on dirait presque un remède miracle. On est tous passés par là, hein, éplucher les offres d'emploi quand il y en a, demander aux proches une recommandation et marcher, courir, se débrouiller en tout cas pour faire du porte-à-porte dans chaque entreprise pour y déposer son CV. Il ne faut pas se mentir, tous les jours c'est la même histoire, les mêmes infos, les mêmes défaites. Aboukar a lui fait preuve d'ingéniosité. Si vous avez la chance d'habiter à Mogadiscio, levez la tête. Un peu plus bas, voilà. Sur les panneaux publicitaires, le visage d'Aboukar s'affiche ainsi que son numéro de téléphone et la mention « Je suis Aboukar Mohamed Ahmed, je suis étudiant, j'ai appris l'informatique, je cherche un travail ». En effet, le jeune a eu l'idée de génie de réaliser et vendre sa propre publicité sur de grandes affiches de 4 mètres par 3 étalées un peu partout dans la ville. Et ça a payé. Ce n'est pas moins d'une vingtaine d'offres d'emploi qu'il a reçues en 48 heures. Aboukar a été de suite embauché par un opérateur du câble national. Alors, ce n'est peut-être pas une solution miracle, mais en tout cas, bravo Aboukar.
Bonjour, c'est Diara. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message.
Chaque semaine, le répondeur de Alors, on dit quoi vous est ouvert, pas sur n'importe quel sujet, mais sur le sujet que vous aurez choisi collectivement en ligne. Cette semaine, vous avez eu envie de vous exprimer au sujet de la place des traditions dans la société africaine. Et pour se lancer pour cette première, on écoute dans l'ordre Ahmed, Mariam, Dengelmbaye, Anne, Mohamed et Georges. C'est à vous.
Si on part déjà d'une simple définition du mot tradition, on peut dire que la tradition est une manière d'agir ou de penser, transmise de génération en génération. Mais on peut aussi dire que c'est la transmission des doctrines et légendes sur une longue période de temps. Alors, les traditions, il faut le dire, renvoient à une époque ancestrale. Les traditions ont été établies pour réguler la vie dans nos sociétés, à l'époque de nos ancêtres, si on peut le dire. Ainsi, je ne peux pas dire que je suis africain sans connaître mes traditions. Mais il faut dire que bon nombre de traditions aujourd'hui sont confrontées à la modernité dans nos sociétés aujourd'hui.
Moi, je pense que les traditions, c'est très utile. Quand surtout on prend la société malienne où, par exemple, dans notre tradition, nous avons le cousinage à plaisanterie. Pour moi, ça peut aider surtout dans cette réconciliation nationale que le Mali est en train de chercher. Nous pouvons utiliser un peu nos traditions de cousinage à plaisanterie pour que les gens puissent s'entendre, discuter ensemble dans l'humour, dans la paix et vraiment ne pas déborder dans les propos et se comprendre mutuellement. Ça, c'est déjà une très bonne chose.
Il faut le dire que l'évolution de toute société va avec des conséquences. Et au Tchad, nous assistons à une disparition progressive de nos traditions. Cela s'explique par le manque d'engouement des jeunes à certaines pratiques de chez nous. Il y a des pratiques comme les initiations. L'initiation qu'on appelle communément Lao Undo est une pratique, sinon un moment dans lequel on transmet des valeurs à un homme ou à un garçon, n'est-ce pas, pour lui donner tous les éléments de coutumes et de traditions de son village. Cependant, les jeunes générations s'intéressent de moins en moins à cette pratique-là. Mais ces derniers temps, on a constaté un arrêt, parce que les jeunes générations qui sont dans les villages et quittent les villages pour les zones urbaines, nous assistons à l'exode rural. Et l'exode rural crée ce qu'on appelle un vide dans la transmission des valeurs, un vide dans la conservation de ces valeurs-là aussi.
En tant que jeune femme sénégalaise, je trouve que la culture a un impact considérable dans la vie sociale des Sénégalais. Pour la simple et bonne raison que le Sénégalais de base adore sa tradition, ses valeurs. Il y a de ces traditions dont je ne pourrais pas me départir, notamment la teranga sénégalaise, le fait de se sentir chez soi, partout où on est, le fait de sentir cette hospitalité sénégalaise. C'est une chose formidable, une chose magnifique, une valeur qui a tendance à disparaître. Et c'est ce que je déplore, notamment À cause de l'insécurité, les gens n'ont plus confiance. Il n'y a plus cette spontanéité dans l'entraide. Mais la teranga sénégalaise, à l'origine, est la meilleure valeur du Sénégal. C'est ce qui nous unit, c'est ce qui fait que partout où on est, on se sent bien et chez soi.
Un homme sans culture est un zèbre sans rayures. Voilà, moi je prendrais ça comme exemple pour dire qu'un jeune sans tradition en Afrique est comme un jeune qui se perd. Voilà, parce que c'est notre identité, ça fait partie de nous et c'est les enseignements de nos anciens. Et chacun devrait s'imprégner de ça. C'est très très important.
Un homme sans culture est un homme sans rayures. Il a bien raison, Georges, de nous rappeler ce beau proverbe africain. Alors soyons fiers de ce que nous sommes. On l'entend, le continent africain est un savant mélange entre modernité et tradition. Et à ce sujet, j'ai repensé à Omar Ba, un jeune sociologue brillant avec qui j'ai partagé les bancs de l'école. Vous allez le voir que cette question de modernité et de tradition fait débat même chez les sociologues.
Les notions de tradition et de modernité ont traversé les sciences sociales sans qu'on ait pu en donner à chaque fois une définition claire et précise. Certains estimant que la sociologie doit s'occuper à étudier les sociétés dites modernes, les autres disant que l'anthropologie a pour objet les sociétés dites traditionnelles. Ceci a créé un certain nombre de courants, dont l'un des plus emblématiques est sans doute l'évolutionnisme, qui a considéré que les sociétés humaines évoluent et poursuivent une trajectoire et que certaines sociétés étaient évoluées, c'est-à-dire modernes, d'autres étaient primitives, c'est-à-dire donc ancrées, en tout cas enfermées dans les traditions. Et ceci est d'autant plus réel que tout un courant de pensée a été développé autour de ça. Mais l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique d'actuellement, de maintenant, est sans doute le lieu où est remis en cause, mais de manière claire et frontale, cette dichotomie entre société traditionnelle et société moderne. Parce que dans une même société, dans une même localité, vous pouvez avoir accès, vous pouvez observer des pratiques que l'on qualifierait de traditionnelles et d'autres que l'on qualifierait de modernes. Par exemple, dans une localité comme Bambey, au Sénégal, dans la ville, on a accès à tout ce qui a trait à la modernité, au téléphone, à l'internet et tout ça. Et à 3 km, vous avez des gens qui habitent des localités et qui boivent l'eau du Canari. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tellement accès à l'eau courante qu'ils boivent de l'eau du Canari. C'est assez caricatural ce que je dis. Et c'est pas dévalorisant, mais c'est pour vous dire que entre tradition et modernité, il y a toujours une certaine difficulté à émettre des définitions. Et ce qui est cocasse dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'écologie, on parle de respect de l'environnement, de respect de la biodiversité. Et c'est quelque chose qui est infiniment moderne. Et moderne, celui qui est écolo, celui qui préserve l'environnement. Or, cette manière de vivre, ce mode de vie, est africain depuis des lustres. Et donc, on tente d'être moderne en convoquant un mode de vie que l'on qualifierait de traditionnel. Donc, entre la tradition et la modernité, l'Afrique est le lieu, je répète, où est remise en cause cette dichotomie. Donc, la tradition, c'est ce qui fait vivre les sociétés. On ne peut pas vivre sans tradition. Même dans des sociétés dites développées, dites évoluées, entre guillemets, il y a des traditions. Donc on ne peut pas vivre sans tradition, y compris en Afrique.
On vous le dit, l'Afrique est en avance. Merci Omar pour ces propos très pertinents. Le répondeur, c'est fini. Direction Tombouctou avec Ina Modia.
Jeune, on dit quoi? Jaranjai.
Dibidona, Kongobora, San Kalutani Fila Kono Kamenyanina, Anga Moku Bekasa Dungudu, Kokele Munteban, Ode Dabora, Antansigi Kanda Minesa, Kanga Dugutu Kafiru Bolusa, Uko Kubi Normine, Kubi Submine, Klese Kunchefe Kubani Mine.
Bam 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 bam
kile bora uyu kali kute kidali segi auma anga duku beka chidongodo surukudo nanga kata hinana anga mago beka murukisa kuteka firi jelasa uko kubamba umine kubamba umine kile se kucheka kubanda amine
Alors, on dit quoi? Et la belle et combative Ina Modja qui chante en Bambara, j'adore. Allez voir son clip Tombouctou, on comprend que cette chanson est aussi, entre guillemets, politique et prône la défense des femmes au Nord-Mali. Un clip qui défend la liberté, la paix et l'amour. Un amour qui parfois nous amène au mariage.
Alors bonjour, je viens pour le témoignage, je viens de me marier il y a quelques jours et... Franchement, je suis très heureuse pour l'instant. Je suis très contente d'avoir pu finir avec l'homme que je voulais. Voilà.
C'est autour de la question du mariage que je vous invite maintenant à échanger. Car oui, chaque semaine, nous prendrons le temps de décortiquer un sujet de société par le biais de vos témoignages, comme tout au long de cette émission, mais aussi par le biais de reportages ou d'entretiens. Si, idéalement, le mariage scelle la beauté de l'union de deux êtres qui s'aiment, les intérêts familiaux, les traditions ou les petits accidents de la vie ne sont pas toujours raccord avec cette belle définition. Alors, comment se projeter dans la vie quand votre famille a décidé pour vous? Que pensent ceux qui ont déjà franchi le pas? On commence avec Rebecca.
Je suis de nationalité nigérienne, j'ai 27 ans et je suis mariée, disons, depuis 3 ans. J'ai une grande idée sur le mariage et tout, parce que on peut dire que j'ai épousé mon amour de jeunesse. Le 2 janvier 2016, je me suis mariée à Landry Akabasi qui a été... ma plus longue relation de couple. On s'est mis en couple depuis 2007 et on s'est marié en 2016. Bon, je n'étais pas tout à fait prête parce qu'on n'est jamais prêt pour se lier à vie avec quelqu'un. On n'est jamais prêt. C'est la vie qui nous aide à savoir si on a fait le bon choix ou pas. Comme dit ma grand-mère, le mariage est le seul diplôme où on te remet le diplôme avant de faire l'étude. Donc ça veut dire que tu mets la tête dedans d'abord avant de savoir où tu es tombé. Se marier est un projet très important, surtout pour les parents, parce que je parle dans le contexte africain. Le mariage est un signe de réussite pour les parents. Les parents voient que leur éducation est accomplie, du genre, ils ont eu une mission surtout pour les filles. Tu as éduqué ta fille, elle est allée à l'école et tout. Donc là, le mariage, c'est la finalité en fait. C'est le point final à l'éducation et au fait que les parents aient la conscience tranquille de savoir que ah, ma fille est mariée. Bon, pour la société dans laquelle je suis actuellement, au Niger, les jeunes se marient d'abord... pas forcément pour l'amour ou pas forcément pour le fait que c'est le moment. Pourquoi? Parce que il y a des divorces presque tous les jours et des mariages presque tous les jours. Donc je me dis que du moment où il y a autant de divorces que de mariages, ça veut dire que la jeunesse ne sait pas encore ce qu'est le mariage, ce qu'est la vie en couple. La vie en couple est d'abord de renoncer à soi et à sa famille pour s'attacher à quelqu'un et ne former qu'un. Moi, aujourd'hui, je considère, je me dis qu'un couple doit se marier au moins après, au minimum, 3 ans de couple.
Ne pas précipiter les choses, apprendre à connaître l'autre. Merci pour tes conseils, Rebecca. Georges, lui, est célibataire. Il sait que le mariage est une sorte de sésame, mais il n'est pas prêt à l'utiliser à n'importe quel prix.
De nos jours, pour avoir plus de responsabilités dans nos sociétés, il faut être marié. Pour qu'on puisse te confier certaines responsabilités, il faut être marié. Voilà. Et moi, je pense que si aujourd'hui j'avais la possibilité de me marier, je le ferais. Et avec une personne que j'aime, bien sûr. Voilà. Une personne avec qui je pourrais tout partager, comme je l'ai dit. Et braver tout obstacle.
Se marier avec quelqu'un qu'on aime, vous êtes tous d'accord? Et vous avez raison, mais parfois l'histoire familiale, pour ne pas dire tribale, en décide autrement. Et là encore, c'est la question du respect de la tradition dont Draman nous parle depuis le Mali.
Moi, par exemple, je suis Dogon et dans ma tradition, il y a un certain nombre de choses que ma tradition ne me permet pas de faire. Notamment, la chose la plus connue parmi celles-ci sont le mariage entre un Dogon et un Bozo. Un Dogon est un peuple que je suppose est un peu connu dans le monde. Par contre, il y a une autre ethnie, un autre peuple au Mali ici qu'on appelle des Bozo. Donc ces Bozo, c'est un peuple de pêcheurs en fait. Donc il y a une longue histoire derrière, mais donc il y a eu un pacte entre nos ancêtres. Donc du coup, c'est impossible, quasiment impossible pour un vrai Dogon de se marier avec une vraie Bozo, ou vice-versa. C'est impossible. Il y aura des conséquences dramatiques, dont la mort, la stérilité. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses que les Maliens ont enlevées ou ont oubliées dans la tradition. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce seul point existe. Tout le monde confirme ça. Et personne n'a le courage ni l'audace de l'enfreindre.
Samantha, elle a de l'audace, a fait des études, a un travail et a désormais moins peur du mariage, mais quelques réticences persistent.
En ce qui concerne le mariage, il y a quelques années, moi, je ne voulais absolument pas me marier parce que j'avais été entourée de certains exemples qui n'encourageaient pas forcément à ce que j'aille dans cette voie. Et voilà, depuis quelques temps, je me suis rendue compte, peut-être que c'est avec l'âge, qui sait, que ce qui me faisait peur, c'était moins le mariage en lui-même que toutes les responsabilités qui allaient avec. Et là, je parle dans le contexte purement africain dont je suis issue. Il faut savoir qu'en Afrique, on n'épouse pas seulement un homme, on épouse sa famille. Et quand je parle de famille, c'est vraiment au sens large du terme. On va épouser les tantes, les oncles, aussi bien que la mère, le père, c'est-à-dire que tout le monde, en gros, a son mot à dire un peu dans votre histoire. Et c'est un petit peu ce côté-là qui me fait peur aujourd'hui, parce que finalement, oui, je pense que non seulement je vais me lier à quelqu'un, mais en plus de ça, j'aurais limite à devoir donner des explications à un petit peu tout le monde dans sa famille, comme dans la mienne d'ailleurs. Et en parlant de ma famille, tu sais, quand tu as bientôt 30 ans, dans 2 ans, yeah, et que tu n'es toujours pas mariée, c'est limite un péché, parce que tout le monde se demande pourquoi. Et dans mon cas particulier, la plupart du temps, il y a ma mère qui revient à la charge pour me demander très subtilement quand est-ce que je vais finalement me faire passer la bague au doigt. Mais à côté, il y a toute la famille, donc les tantes, les oncles, mais vraiment tout le monde qui n'hésite pas à te rappeler que tu te fais vieille, que tu n'es pas mariée, que tu n'as pas d'enfant. Et pour beaucoup, dans ma famille en tout cas, on se dit que c'est parce que j'ai fait des études, que je suis trop indépendante, que je me positionne trop en féministe, que finalement personne ne veut m'épouser. Je crois en fait que c'est un petit peu ce qui doit se raconter dans les réunions de famille quand je suis pas là. Mais bon, j'ai pas vraiment peur du mariage, mais la pression qui va avec aujourd'hui en Afrique est juste énorme. La pression au niveau de la famille, la pression au niveau de la société, qui finalement nous dit que tôt ou tard, on va finir par y passer.
Et c'est tout ce qu'on te souhaite, Samantha, de trouver et de choisir la bonne personne. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Le mariage forcé est aujourd'hui encore plus que courant. Chaque année, plus de 12 millions de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans, parfois même au début de leur puberté, vers l'âge de 12 ans. Une pratique que je trouve personnellement révoltante, car ces filles voient leurs droits à l'enfance et à l'éducation volés, et leurs perspectives d'avenir et d'évolution, eh bien, elles sont tout simplement limitées. Les mariages forcés et précoces maintiennent les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d'impuissance de génération en génération. Malgré les efforts des autorités et des ONG sur le terrain, plus de 3 filles sur 4 sont mariées avant l'âge de 18 ans, notamment au Niger. Et ce triste constat, plus la famille est pauvre, plus la jeune fille a de risques d'être mariée jeune. Charlie Dupio a rencontré Fatih au Niger, dans la région de Maradi, au sud du pays. Ce qu'elle nous raconte est effrayant. Oreilles sensibles, s'abstenir.
Mes parents n'ont pas voulu que je sache qu'un mariage avait été célébré en mon nom et en mon absence. Je ne sais même pas quand ils ont organisé la cérémonie. On m'a juste dit, tu vas rejoindre ton mari ce soir. Et on m'a emmenée à cheval, dans la famille de mon mari, dans un village voisin à quelques kilomètres du mien. À l'époque, je n'avais pas de sein, je n'avais même pas encore mes règles. On m'a fait rejoindre mon mari, et là, on m'a attaché les mains et les pieds, avec un fil de fer, au pied d'un lit, méchamment, comme si j'étais un animal, une chienne. On m'a frappée avec une chicotte, et vous voyez, jusqu'à présent, j'ai encore des cicatrices sur mes chevilles. Ce sont les amis de mon soi-disant mari qui m'ont fait ça. Ils m'ont attachée parce qu'ils voulaient que mon mari me viole pour lui permettre de consommer le mariage. Je n'avais pas été préparée à ça. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un homme, encore moins le sexe et les relations sexuelles. Chez nous, c'est un sujet tabou, on n'en parle jamais. Et tenez-vous bien, j'avais mis 5 culottes, justement parce que j'avais peur d'être violée. Ils ont commencé à m'enlever les culottes l'une après l'autre, mais moi je résistais, je criais, je pleurais, j'en ai même mordu certains pour qu'ils arrêtent. Ils étaient 5, 4 de ses amis et son grand frère. Et c'était son grand frère qui insistait pour me retirer mes culottes, pour que mon mari puisse me violer. S'il me violait, alors il avait la garantie que je reste au foyer.
Pourquoi ?
Parce que la virginité a une valeur chez nous. Si une fille n'est pas vierge, elle est une proie facile pour les hommes. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré fuir, pour préserver ma dignité. Comme je gesticulais dans tous les sens, mon mari m'a laissé me calmer un moment, pensant qu'une fois de retour, il allait coucher avec moi. Ses amis aussi sont partis. Quand j'ai été seule, j'ai coupé le fil de fer avec un couteau qu'ils avaient laissé là, à côté de moi. Ils m'avaient menacée avec ce couteau en me disant « Si tu n'acceptes pas de coucher avec moi, on va te tuer ».
Vous avez fui ? Vous êtes parti où ?
Je suis partie à Niamey parce qu'à Niamey, on m'a dit qu'il y avait des organisations qui aidaient les filles à se sortir d'une situation de violence ou de mariage forcé. Alors j'ai pris la fuite ce soir-là. Il était 19h, j'ai marché jusqu'à atteindre le goudron au petit matin. C'était loin. J'ai pu payer le transport jusqu'à Niamey grâce aux habits neufs donnés pour mon mariage. À Niamey, je suis allée toquer à la porte d'une femme chez qui ma mère avait travaillé comme bonne. Tout de suite après mon arrivée chez elle, elle m'a conduite à l'hôpital pour que je sois examinée. Elle a soigné mes pieds qui étaient enflés à cause de la marche et du fil de fer. Elle a eu pitié de moi. Elle m'a même donné des habits pour que je me change.
Je vous avais prévenu, ce témoignage glace le sang. Mais comme rien n'est immuable, il faut engager la conversation, remettre parfois en cause la tradition sans la renier et surtout sensibiliser les hommes à ce qu'impliquent les mariages précoces. C'est ce qui se passe à l'école des maris courageux d'y participer et d'en témoigner au micro de RFI, toujours en compagnie de Charlie Dupio au Niger.
On est à Gidansgaou, à 25 km donc du district sanitaire de Tessawa.
Et là présentement nous sommes sous un arbre.
Oui.
Et ici il se tient une école un peu particulière.
C'est une école des maris, pas une école traditionnelle ou publique comme ça. Quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, école des maris ?
C'est un groupement donc, des volontaires. Et c'est-à-dire, chaque mois, on tenait des réunions donc, selon des sujets bien développés. On choisit un sujet et on les développe. Et je peux prendre comme un exemple donc, le mariage précoce. Concernant le mariage précoce, on sensibilise la communauté pour pouvoir laisser les jeunes filles mûrir, quoi, si je veux dire, quoi. C'est un terme à peu près un peu grossier que j'ai utilisé.
Mais ces hommes-là, autour de la table, sont déjà mariés ?
Oui, ils sont mariés tous.
Alors à quoi ça sert de les sensibiliser ?
C'est très important parce que même s'ils sont mariés, ils sont quand même des jeunes filles. Une fille qui est mariée à l'âge de 12 ans, là, elle n'aura pas la chance de continuer ses études.
Il y a combien d'hommes qui assistent à ces écoles des maris ?
Donc chaque école des maris comporte pas moins de 14 hommes.
Alors peut-être qu'on peut demander à certains maris ce qu'ils ont retenu de l'école des maris ?
Oui, tout à fait, on peut les interroger. Donc il y a deux maris, donc du club des maris, qui sont là présents avec nous.
Bonjour, salam alaikum.
Wa alaikum wa salam.
Amalekum salam.
Alors, quand est-ce que vous avez rejoint cette école de Marie et pourquoi ?
J'ai rejoint l'école de Marie à partir de 2013. Et la raison essentielle pour laquelle je suis rentré, c'est parce qu'ils font des activités pour attirer les gens au niveau de cette école. C'est-à-dire, il y a le planning familial qu'ils font et puis ils luttent contre le mariage précoce.
À quel âge vous avez marié vos filles ?
J'ai marié ma fille à l'âge de 18 ans. Parce que d'après les sensibilisations qu'on reçoit, on nous fait comprendre qu'il ne faut pas marier une fille à moins de 18 ans. De mon point de vue, je préfère que ma fille étudie jusqu'à ce qu'elle ait au niveau du lycée, jusqu'à ce qu'elle admette à son baccalauréat.
Même si ça veut dire aller dans un collège, donc peut-être changer de village, puisqu'il n'y a pas forcément de collège dans votre village.
Je vais la placer dans une bonne famille qui va bien l'accueillir, dans le cas où c'est dans un autre village, pour qu'elle puisse continuer ses études.
Et vous, monsieur, vous êtes aussi un mari modèle, un mari qui suit l'école des maris. Vous n'êtes que 14 là, dans ce club de maris, ici, dans ce village. J'imagine qu'il y a d'autres hommes qui ne vous soutiennent pas forcément. À quelle critique vous faites face ?
On nous considère comme des hommes qui défendent la modernité et qui agissent contre la tradition, ce qui est mal vu dans notre village. Les autres hommes ne sont pas d'accord avec nous en général. Ils restent attachés à ce qu'ils pensent être notre culture.
Et alors justement, comment vous rassurez les parents sur le fait qu'une fille peut atteindre l'âge de 18 ans sans forcément tomber enceinte ?
Ce que l'islam recommande en réalité, c'est l'abstinence jusqu'à ce que la jeune fille se marie. Mais il y a des situations que l'on ne peut pas contrôler. Il y a un moment où cette jeune fille va certainement rencontrer des garçons et à titre préventif, on lui conseille simplement de prendre la pilule contraceptive pour éviter une grossesse non désirée, ce qui peut être un vrai déshonneur pour sa famille. La famille peut même décider de la rejeter. Là, l'utilisation de la contraception est fondamentale.
En gros, ce que vous dites là, c'est la contraception plutôt que le mariage précoce.
Oui, c'est le point de vue que nous défendons. Et lors de nos campagnes dans les villages, on a constaté que pour les femmes, ce sujet ne posait en général aucun problème, car au vu de ce qu'elles ont vécu, elles sont en mesure de comprendre ce message. Par contre, jusqu'à présent, les hommes ont toujours été réticents à l'égard de la contraception.
La contraception, un sujet tabou que l'on abordera peut-être dans cette émission, car c'est vous qui choisissez les sujets dont on discute ici. Alors si vous avez des envies, des idées, faites-le savoir sur notre fanpage. Alors, on dit quoi ? Tradition, religion, c'est souvent l'infini respect des paroles ancestrales qui est évoqué pour perpétuer des pratiques clairement douteuses. Mais même les plus grands défenseurs de la religion ne cautionnent pas ces pratiques, comme cet imam.
Certains leaders religieux sont contre le fait que la femme étudie jusqu'à un certain niveau. Ils préfèrent plutôt que la fille se marie à un bas âge. Vous savez, dans notre village, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de connaissances sur l'islam. Et dès le temps, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Vous n'avez pas besoin d'étudier beaucoup et vous venez, vous commencez à faire des prêches. Ce qui n'est pas normal. Normalement, pour faire des prêches, il faut atteindre un certain niveau. Il faut être un érudit de l'islam pour pouvoir faire des prêches. Mais nous, nous n'acceptons pas cela. Dans nos villages, là, quand les gens qui viennent, ils n'ont pas une connaissance soutenue de l'islam, ils ne vont pas venir faire des prêches ici. Mais les gens pensent qu'il faut très tôt marier la fille. Non, en réalité, ce n'est pas ça. L'islam n'a pas spécifié qu'une femme avant 15 ans doit forcément se marier. Donc l'islam a recommandé plutôt que la recherche de la connaissance est fondamentale. Donc il faut chercher d'abord la connaissance avant le mariage.
Quel est l'âge à partir duquel vous commencez à marier les jeunes filles ?
Maintenant, il y a une chose que les gens, tout le monde constate. Il y a tout à l'heure, la celle qui a ouvert cette séance, c'est une femme. C'est parce qu'elle a été à l'école, elle a réussi, elle a atteint un certain niveau. Maintenant, les gens sont en train de copier cela. On voit les femmes réussir. Donc, les femmes font tout pour que leurs enfants réussissent à l'école. Vous savez que dans une famille, l'éducation de la jeune fille est entre les mains de sa maman. Et les femmes ont constaté de plus en plus qu'il y a d'autres femmes qui réussissent. Pourquoi pas leurs enfants? Pourquoi pas leurs filles?
On l'a entendu, hein, réduire les mariages précoces, c'est permettre aux jeunes filles de faire des études et pourquoi pas d'avoir un métier. On a entendu aussi tous ces jeunes auditeurs, merci à eux de nous confier certaines réserves quant au mariage, tout en ne reniant absolument pas toutes les traditions. Alors le mariage, sujet clos, à vous de nous le dire.
Alors,
on dit quoi ?
Comme le disait cet imam entendu précédemment au Niger, certaines personnes peu savantes de la religion l'instrumentalisent à des fins guerrières ou personnelles et de nombreux civils continuent de périr là où sévissent divers groupes djihadistes. Des zones entières du nord du Mali sont régulièrement visées par des attaques meurtrières malgré la signature en 2015 d'un accord de paix. Depuis, les attaques se sont étendues au centre et au sud du Mali et le phénomène déborde sur les pays voisins, en particulier au Burkina Faso et au Niger. Isbil est un jeune Malien, il en avait marre de voir sa religion utilisée à des fins d'embrigadement guerrier et de radicalisation. Il a tout simplement créé Soldat de la Vie, un projet musical et engagé.
Et bonsoir Diarra. Donc Soldat de la Vie, et d'abord c'est important de savoir que c'est pas un single, c'est une trilogie. C'est une trilogie et cette partie-là c'est pour apporter à ma façon ma contribution à la lutte contre le terrorisme et contre la radicalisation, qui sont des problèmes qui touchent énormément mon pays. Et puis c'est pas que mon pays. Et tout le monde sait que la radicalisation, le terrorisme, c'est l'affaire de tous aujourd'hui. Qu'on soit français, malien, sénégalais, américain, peu importe son lieu d'origine, on est fortement touché par le terrorisme. Et je me suis dit, pourquoi ne pas écrire une chanson à travers laquelle je pourrais essayer de toucher le cœur des jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont la cible. Ce sont les jeunes qui sont enrôlés dans des clans radicaux. Vous voyez, ce sont les jeunes qui sont facilement manipulés. Donc je me suis dit que ce serait vraiment important d'écrire quelque chose qui pourrait toucher ces jeunes-là pour qu'ils comprennent que c'est faux. En aucun cas, faire le mal peut nous apporter quelque chose de bien.
J'ai pas le droit de donner la vie, c'est pas moi qui la donne. Je peux pas danser sur la zik que vos carnes offrées donnent. En moi le mal, jamais ne l'emportera sur le bien. On n'ira pas au paradis en tuant son prochain Dieu. Je suis sahélien, 25 ans, Mohamed, enrôlé dans une pratique que je ne peux définir moi-même. Ici, j'ai repéré mes potes, Ali et Moussa, avec lesquels j'ai écoulé toutes mes années de madrassa, loin de mes remparts. J'étais pas seul, mais sans rempart, je perds du poids. Tout le temps de moi, la solitude sans pas, yeah. Une atmosphère de rigueur où djihad ne fait pas bon ménage. Avec douce, j'ai prié. Connaissais quasiment le livre saint, appliquais les rudiments enseignés par les anciens. Avec le temps, on m'a appris mon rôle dans ce clan. Fallait que je combatte le mal de tous ses partisans. Fallait que je combatte ces grands ennemis de l'islam. Répandre le sang s'il le faut pour libérer des âmes amputées jusqu'à la mort. Lapidation des égarés, des cas pour que vive la religion pour la cause d'Allah. Fallait donner tout ce qu'on avait, fallait donner tout ce qu'on était. Le prix, le paradis était l'enfer. C'est pour le monde les insoumis et quiconque les combattait avec des chances n'est pas fini. J'avais la tête lourde et pensive pendant que des endoctrinés avaient déjà des ceintures explosives. Tout droit vers le gouffre, ils s'en allaient tuer des innocents. Leurs pauvres âmes en les arrachant. J'ai côtoyé le mal, salué le dépressif, l'extrémiste et tout ce qu'il renferme d'impulsif. Que de pauvres victimes de ce qui remplissent. L'islam n'est pas une brute, c'est vous les barbares. J'ai pas le droit de quitter la vie, c'est pas moi qui la donne. Je peux pas danser sur la zik que vos calmes fredonnent. En moi le mal, jamais ne l'emportera sur le bien. On n'ira pas au paradis en tuant son prochain. Je veux rentrer chez moi, ici je ne vois que malheur. Je ne peux pas vous imiter, vous n'êtes que des malades, que des diablotins. Dix fils du diable en personne, derrière votre guerre sainte se cache la guerre pour le pétrole. Je suis pas de ces esprits faible que vous emballez au nom de qui? De quoi la terreur? Faut la propager au nom de qui? Faut rafaler de pauvres gens au nom de quel? Verser le sang, faut le verser, Dieu. Je suis un soldat de la vie et toi?
Soldat de la vie, une trilogie musicale d'Isbil à retrouver de suite en vidéo sur notre fanpage.
Ok. J'ai pas le droit de la vie, c'est pas moi qui la donne. Je peux pas danser sur la zik que vos canons redonnent. Moi le mal, jamais ne l'emportera sur le bien. On n'ira pas au paradis en tuant son prochain.
Alors, on dit quoi?
Jaranjai.
Chaque semaine, nous voulons que notre laboratoire à idées se nourrisse des avis des jeunes Africains de la diaspora et qu'ils se confrontent aux opinions de ceux restés au pays. C'est l'instant Sud-Nord. Une question, mais des réponses venues des deux directions. Baptiste vous a écouté avec attention, que vous soyez à l'autre bout du téléphone ou dans le quartier de Château-Rouge à Paris, sur la question de la migration. On écoute.
En fait, moi, je suis venue ici en France, c'était pour me marier avec mon copain, qu'on se connaît, c'est un cousin à moi. Au final, ça n'a pas abouti, il m'a largué en fait. Donc, c'est la galère totale. Je suis restée ici, je suis allée chez une tante par connaissance, quoi, qui m'a hébergée chez elle quelque temps. Après, j'ai eu un boulot, un travail comme caissière. Le problème que j'avais, je ne connaissais pas beaucoup de fruits, parce que il y a des fruits que ici que je l'ai découvert, c'est ici que j'ai connu, comme le cuit, le kaki, courgette, je sais pas, parce que je connaissais pas leur nom, je les voyais mais je connaissais pas.
Les quoi, les courgettes?
Courgettes, voilà, c'est ça. Une semaine, ça c'était comme ça. Non, la semaine suivante, je venais 30 minutes avant l'heure, avant que je reprenne le travail, j'allais dans les rayons pour lire, pour savoir ça, c'est ça, ça, ça. Au bout de 2-3 jours, donc j'ai maîtrisé les fruits. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait.
Bon, quand j'étais au Mali, j'avais l'envie de venir ici parce que mes frères qui sont là, à chaque fois qu'ils partent, on les voit d'une autre façon. Avant, ils n'étaient pas bien financièrement, en fait. Mais quand ils viennent ici, 5 ans, 10 ans, s'ils retournent au pays, tu vas trouver qu'ils ont des belles voitures, ils ont fait des constructions, ils ont réalisé quelque chose en fait. Mais au pays, c'est pas facile de faire une telle réalisation en 5 ans ou en 10 ans. J'avais en tête que quand je viens ici, forcément, je vais réussir très bientôt aussi, rapidement. Mais quand je suis venu, j'ai trouvé que c'est pas le cas.
Pourquoi c'est pas le cas?
Parce que quand je suis venu, j'ai fait une demande d'asile, ça a été rejeté, alors que je suis même pas parti à l'OFPRA. Puis quand tu n'as pas de papiers ici, c'est pas facile de travailler. Au moins, si je pouvais travailler, c'est ça qui allait être plus mieux pour moi. Puis là, je ne travaille pas, je dépends des gens. Et ça fait une année et quelques maintenant que je suis ici, ben, c'est pas facile.
Ce qui a fait que je suis venu en France, c'est à cause d'une seule chose, c'est pour pouvoir survivre. Bon, en fait, moi, je ne m'attendais pas de la France de grandes choses. Bon, je ne m'attendais pas d'avoir beaucoup de l'argent, d'avoir beaucoup de maisons ou bien autre chose. Sauf que je m'attendais de la France, c'est ce que j'ai trouvé, la paix.
La préfecture, les gens qui font la queue à la préfecture, c'est un truc qui me marque. Ouais, le fait d'être à 5h ou 4h du matin, où il y en a, ils viennent la veille, ils dorment carrément là-bas pour pouvoir. Ben ça, c'est quelque chose qui m'a, ouais, ça m'a marqué. Rien que ça, en fait, ça décrit un peu la France. Ben, ça décrit carrément comment ça peut être aussi dur en France pour une personne qui vient pour s'intégrer, quoi, ou qui veut s'intégrer, tout simplement.
Le coup de gueule.
Y'en a marre, comme diraient mes compatriotes sénégalais. Eh bien, nous aussi, on en a marre qu'on ne vous laisse pas assez vous exprimer et exposer vos revendications, souffrances ou injustices, révolte, coup de gueule, ulcère, même s'il le faut, appelez-le comme vous voulez, mais partagez avec nous vos convictions. Comme on le dit, le dire, c'est déjà un peu gagné. Aujourd'hui, on donne la parole à Adia Idrissaba, jeune militante.
Je m'appelle Adia Idrissaba, je suis une jeune fille activiste en République de Guinée qui défend les droits des jeunes filles en Guinée. Alors, j'ai depuis longtemps commencé à mener ce combat, mais ce qui m'énerve de plus, c'est que tu vas rencontrer certaines familles qui, tu essayes de les sensibiliser, tu essayes de les ramener à la raison, tu essayes de les dire que voilà, ces jeunes filles ont de l'avenir, il faut qu'ils les considèrent comme leurs enfants petits garçons. Donc, ils essayent toujours de dire non, de regarder le côté tradition et le côté religion. Je me demande, est-ce que la tradition ou est-ce que la religion n'est pas ici aujourd'hui un prétexte pour nos parents afin de nous empêcher d'aller au-delà de nos rêves? Donc cela m'énerve beaucoup. Ce qui m'énerve encore de plus, c'est de voir les jeunes garçons, c'est-à-dire ces jeunes qui ont aujourd'hui la chance d'étudier, d'aller à l'école, d'apprendre quelque chose, et on se dit que c'est eux l'avenir du pays, alors que c'est eux-mêmes qui encouragent les parents, c'est eux-mêmes qui encouragent la pratique de l'excision, qui est une pratique néfaste sur la santé de la jeune fille, tout simplement pour l'ôter de son droit, l'ôter ce privilège et dire voilà, donc la fille, il faut qu'elle soit excisée pour qu'elle soit pure et complète. Donc cela m'énerve beaucoup. Et de l'autre côté aussi, quand on voit nos pays ratifier des conventions chaque jour, la Guinée par exemple a été le 14e pays à ratifier la convention relative aux droits des enfants. Nous avons des lois, malheureusement. Jusqu'à présent, nous voyons que les jeunes filles sont en train de souffrir. Ce n'est que les cas que nous sommes en train de résoudre. Nous voyons des petites filles de 11 ans, des petites filles de 12 ans qui sont données en mariage. Alors vraiment, c'est un peu choquant et c'est désolant de voir tout ce qui se passe malgré le combat que nous menons en République de Guinée.
Et je sais qu'il y a d'autres coups de gueule à passer, alors n'hésitez pas, réagissez sur notre page Facebook Alors on dit quoi, et faites comme Adia Idrissa Ba en nous envoyant en vidéo votre selfie coup de gueule, pas plus de 2 minutes s'il vous plaît, sur notre numéro WhatsApp.
Parce que nous étions des nègres.
Djarandjai.
Alors on dit quoi?
On disait tu.
Le temps passe très vite, alors on dit quoi, c'est déjà terminé. Donc vous l'avez compris, concrètement, ce que j'attends de vous chaque semaine, c'est que l'on interagisse ensemble. Envoyez-nous vos initiatives, partagez vos découvertes musicales. Dites-nous aussi sur quoi vous avez envie de débattre et quel est votre coup de gueule. N'oubliez pas aussi de me laisser un message sur le répondeur de notre émission au 0 647 740 742 ou au 33 647 740 742. Depuis l'étranger. Et sachez que la semaine prochaine, nous vous donnerons des conseils pratiques. On verra alors les béabas pour bien pitcher son projet. Nous allons aussi revenir sur une des fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et nous donnerons la parole aux étudiants étrangers en France. En tout cas, j'espère que cette première vous aura plu. J'y ai mis tout mon amour du continent et de sa jeunesse. Une chose est sûre, c'est que cette émission est pour vous. Contactez-nous. Je veux vous entendre sur tout ce qui nous concerne. Merci par ailleurs à toute l'équipe de l'émission. Astou, Simon, Baptiste, Georges et Guillaume. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence. C'est avec vous que j'ai envie d'échanger. Alors venez causer avec moi, on a des choses à se dire. Salut, Rangongol, à bientôt.